Bonjour et bienvenue. Merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec vos rendez-vous du samedi. Le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat du week-end et cap sur les États-Unis. Cap aussi sur cette fiction américaine que serait le pauvre petit blanc. Le pauvre petit blanc, celui qui a porté Donald Trump en 2016. Celui qui est motivé par le sentiment d'insécurité culturelle et qui serait tenté de nouveau de choisir le candidat républicain dans quelques semaines maintenant. Notre invitée est historienne, elle est spécialiste des États-Unis, enseignante à Sciences Po, chercheuse associée aux universités de Harvard et de Stanford. Elle a écrit sur Martin Luther King. On lui doit des travaux sur les questions de race et de classe aux États-Unis. Rendez-vous avec Sylvie Laurent dans une vingtaine de minutes. Mais tout de suite, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour. Bonjour.
Et pour commencer...
Moi j'ai poussé pour qu'on puisse changer le plus vite possible. On y est quasiment arrivé. Il nous reste cet obstacle-là qu'on essaye de passer pour pas tuer, parce que là on tuerait complètement une filière en France et qui ferait que du coup on importerait du sucre qui aurait été fait aux néonicotinoïdes. Donc tout ça est d'une hypocrisie totale. Voilà, on a un obstacle, on le passe en responsabilité. C'est ça aussi, être vraiment écolo, c'est être responsable et se battre.
C'était Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Ce jeudi sur France Info, l'Assemblée nationale a validé mardi le retour des néonicotinoïdes en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Voilà pour les explications techniques. Mais c'est cette même Barbara Pompili qui avait porté en 2016 l'interdiction de ces pesticides alors qu'elle était secrétaire d'État. Travail d'équilibriste. Gilles, pourquoi revenir sur la question écologique alors qu'elle a été largement éclipsée par les autres préoccupations, et à commencer évidemment par les préoccupations sanitaires, économiques, la crise du Covid.
D'abord parce que ça demeure une des préoccupations majeures des Français et que c'était un des enjeux les plus déterminants pour l'avenir de l'humanité. Donc je pense qu'on peut y revenir et qu'on peut y revenir à peu près toutes les semaines. Mais je trouve ce qui s'est passé cette semaine, à la fois avec le dossier que vous venez d'évoquer, mais avec quelques autres. Il y a eu des discussions sur le projet de loi de finances, il y a eu le lancement de la prime pour la rénovation des bâtiments. Tout ça permet, je crois, de s'interroger sur où en est ce gouvernement et le président de la République par rapport à l'écologie. Avec un point de départ, je crois, qui est que il n'y a pas dans le logiciel d'Emmanuel Macron de ligne de code écologique. C'est-à-dire que il est arrivé, ou il essaye d'arriver à cette question, non pas par conviction ancrée, mais par intérêt. Ce qui peut parfois être utile. Alors, il l'a fait de manière offensive au début pour prendre le leadership sur les questions internationales, notamment après le retrait de Donald Trump des accords de Paris. Il le fait de manière beaucoup plus défensive sur le terrain national. Avec un bilan, quand on regarde la première partie du quinquennat, dans lequel il y a à la fois des avancées, des reculs, mais où tout ça est marqué par la démission symbolique de Nicolas Hulot. Et puis il y a la Convention citoyenne pour le climat. Et ce qui me frappe, c'est qu'il y a à la fois, je crois qu'on ne peut pas le dénier, une action, des choses qui sont faites. Le lancement de la prime pour la rénovation des bâtiments, ce n'est pas rien, et c'est un combat déterminant pour la réduction des gaz à effet de serre. Et il y a en même temps une déception qui est quasi mécanique parce que Emmanuel Macron ne peut pas être autrement qu'en retard d'un engagement.
Il ne peut pas.
Il ne peut pas parce qu'il est allé devant la Convention citoyenne, il a dit « je prends tout » à trois jokers près, je prends les 146 propositions, et semaine après semaine, on assiste à des reculs et on va continuer à assister à des reculs. Et donc on est, je trouve, dans cette situation dans laquelle il y a des avancées, des reculs, et tout ça reste assez illisible.
Natacha Polony.
Là où je rejoins Gilles, c'est qu'en effet, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là parce que l'écologie ne peut pas justement s'accommoder de coûts, de positionnement immédiat, et on le voit sur la question des néonicotinoïdes avec notamment la filière betterave. Pourquoi ? Parce que si on regarde un petit peu dans le détail les problèmes que posent en gros ce puceron qui inocule aux betteraves un virus qui leur donne la jaunisse, quand on regarde exactement comment ça se passe, bien entendu, on tombe sur des études qui expliquent donc que l'idée c'est de réautoriser les semences qui sont enrobées de pesticides, que dans la mesure où les betteraves sont des plantes qui ne fleurissent que tous les deux ans et qu'elles sont récoltées avant la fleur, ça, les abeilles a priori échappent aux néonicotinoïdes. En revanche, ils se diffusent dans la terre, donc il faut étudier le type de diffusion dans la terre, suivant la pluie, suivant le sol. Donc il faut rentrer là-dedans. On s'aperçoit finalement que certes, les risques sont mesurés, mais qu'a priori, la meilleure solution, plutôt que de réautoriser les néonicotinoïdes, c'est de favoriser les variétés de betteraves qui seraient résistantes à ce puceron. Le travail est déjà engagé, mais c'est un travail de long terme. Et ça veut dire que d'ici 2-3 ans, on aura des variétés qui résistent, et en attendant, il faut soutenir la filière. Donc, est-ce qu'on la soutient en relançant l'usage de néonicotinoïdes ou est-ce qu'on la soutient en évitant justement de la mettre en concurrence avec des betteraves sucrières qui viennent du Brésil et qui, elles, sont de toute façon traitées parce que, en fait, le vrai problème de cette filière, c'est ça, c'est la concurrence internationale. Donc, vous voyez que venir réagir immédiatement à un problème qui est un problème de long terme, qui concerne à la fois l'environnement et la question du libre-échange, la question de la concurrence à travers notamment l'idéologie du bas coût systématique, l'immédiateté nous conduit forcément à des mauvais choix et Emmanuel Macron se retrouve systématiquement au pied du mur parce qu'il est dans l'immédiat, le court terme, au lieu d'être dans l'inscription d'une réflexion à long terme sur ces sujets-là.
Gilles.
Alors, je ne vois pas exactement les choses comme ça. Les termes du débat sur les néonicotinoïdes, là maintenant, ils sont assez clairement posés. D'un côté, il y a ceux qui disent, un peu ce que dit Natacha, c'est une dérogation, mais c'est une dérogation qui est temporaire, c'est une dérogation qui est limitée, ce sont les semences enrobées, c'est une limitation qui va être contrôlée puisqu'il y a un conseil de surveillance qui a été mis en place, notamment pour s'assurer qu'il y a des travaux de recherche sur des solutions de remplacement. Et donc, il faut sauver la filière,
l'emploi.
Mais moi, je ne défends pas le sauvetage par les néonicotinoïdes.
Attendez, si on prend l'ensemble des dossiers...
Je ne défends pas du tout, justement, le sauvetage par les néonicotinoïdes. J'explique que ce n'est pas le problème.
Et d'un autre côté... Ceux qui disent c'est un abandon, un abandon dramatique, parce que la question n'est pas pour les semences enrobées, c'est que et le risque létal immédiat pour les abeilles, c'est qu'elles sont désorientées.
Bon, il
y a ce
d'accord.
débat technique. Là où on est sur un débat, je trouve beaucoup plus profond parce que ça touche à l'ensemble des questions sur l'écologie, c'est la question justement du rapport au temps. Et je trouve que une des difficultés qu'on a, c'est que très souvent, sur ces questions-là, on se fixe des objectifs extrêmement ambitieux, avec des dates et avec des chiffres. Là, en l'occurrence, c'est en 2016 qu'on a dit, en 2021, il n'y a plus de néonicotinoïdes. Mais on peut prendre 10 000 autres exemples. Le glyphosate, ou même de manière plus générale, la réduction des gaz à effet de serre, dont cette semaine encore, il y a eu des surenchères entre la Commission européenne d'un côté, puis le Parlement, pour fixer des objectifs de plus en plus ambitieux. Très bien, on fixe des objectifs. La question est, avant d'atteindre ces objectifs, quel est le chemin que l'on emprunte? Quelles sont les étapes? Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'immédiateté. À un moment après, effectivement, on se retrouve dans une situation dans laquelle peut-être il n'y a pas d'autre solution. Et donc, fixer des objectifs, c'est très bien, c'est déterminant. Ne pas... Ça devient insignifiant s'il n'y a pas le chemin derrière.
Natacha.
Là-dessus, on est entièrement d'accord. Et c'est pour ça que j'expliquais que le problème, en l'occurrence, sur cette filière betterave, n'est pas seulement ce puceron, mais avant tout la concurrence internationale qui fait que, de toute façon, la filière est déjà en perte de rentabilité. Et que, donc, ça nécessite un traitement de long terme. Mais, en effet, le problème, c'est qu'à chaque fois, on a, d'un côté, ceux qui plaident pour l'arrêt le plus rapide possible, et qui ont raison, parce qu'il faut arrêter le plus vite possible ces pesticides, mais derrière, on ne suit pas, vous avez raison, et le problème, c'est que la FNSEA, par exemple, freine des cas de fer, et au lieu d'utiliser le délai pour essayer de modifier les pratiques, et donc de préparer les paysans à ce virage et qui leur sera de toute façon bénéfique, eh ben on fait de l'obstruction et on se retrouve à la date butoir, en effet, dans une situation dramatique et c'est toujours les mêmes qui payent, ce sont les paysans.
Mais élargir le débat en sortant de la seule question des pesticides, quand on lisait le journal Le Monde il y a quelques jours, il y avait ce titre, Emmanuel Macron en quête d'une doctrine et d'une stratégie en matière d'écologie. Le journal Le Monde qui parlait des pesticides, évidemment, mais qui revenait sur les déclarations sur les amis, sur les propositions l'élection de la Convention citoyenne embourbée. Vous le disiez, Gilles, après la démission de Nicolas Hulot, c'était il y a maintenant 2 ans, le président de la République ne parvient toujours pas à convaincre. Comment expliquer qu'il n'arrive pas à convaincre, sachant qu'il y a eu encore des discussions sur la condition animale et le bien-être animal cette semaine à l'Assemblée nationale, avec des reculs par rapport aux propositions qui avaient été faites?
Pour ma part, je pense que c'est parce que, je le disais tout à l'heure, ça nécessite une cohérence. Une politique véritable de prise en compte du risque environnemental doit infuser dans l'ensemble des domaines. C'est-à-dire que je pense qu'il y a la nécessité de modifier l'urbanisme, de modifier les règles de libre-échange, de modifier la façon de produire. Ça nécessite une réindustrialisation qui soit axée sur l'enjeu environnemental, c'est-à-dire refaire des usines chez nous pour éviter d'externaliser notre pollution. Cette semaine encore, on a eu des chiffres, ça me fait mourir de rire. On découvre que, en effet, si la France a de bons résultats en matière de bilan carbone, c'est parce que, en fait, si on comptait ses importations, on s'apercevrait que là, en revanche, c'est désastreux. Mais pardon, on le savait très bien. On sait très bien que c'est la désindustrialisation qui a fait baisser notre bilan carbone. Il faut donc refaire des usines en France selon nos normes, c'est-à-dire modernes, c'est-à-dire suffisamment robotisées, c'est-à-dire penser en matière environnementale. Donc, c'est une politique globale.
Gilles.
Oui, je crois qu'il faut de la cohérence et il faut aussi que les Français ressentent une conviction. Et je crois que celle-ci fait défaut et que même on assiste de plus en plus à un glissement dans lequel la question environnementale devient un terrain de bataille tactique et politique, dans lequel d'un côté Emmanuel Macron est rarement en retard d'une stigmatisation. On a vu au moment des municipales la constitution de front anti-écologique, comme on faisait des fronts anti-républicains auparavant. Il y a eu l'épisode que vous avez évoqué sur les Amish. Et puis, d'un autre côté, une partie des écologistes est rarement en retard d'une radicalisation. Et donc, tout ça donne un débat qui est, je crois, de plus en plus confus et que un des enjeux de 2022 va être sur les grandes questions, la production de l'énergie, la fiscalité environnementale, la protection de la biodiversité, de fixer des objectifs et un chemin.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Moi, je ne veux pas qu'on détricote la loi Veil comme ça au détour d'une proposition de loi. Je pense à la protection des femmes. La question que se pose, c'est est-ce que finalement l'allongement de ce délai va renforcer cette protection ou pas? Est-ce que vraiment ça améliore les situations ou pas?
Navré de vous dire que oui, dans notre pays, nous avons vécu nous-mêmes parfois des entraves à l'IVG. Nous avons vécu des délais qui étaient trop longs. Nous avons vécu des médecins qui nous ont obligés à écouter des battements de cœur. Nous l'avons vécu et nous ne voulons pas que les femmes dans notre pays continuent à le vivre.
C'était d'abord Damien Abad pour les Républicains cette semaine, suivi de Rohr Berger, la députée La République En Marche à l'Assemblée Nationale. C'était ce jeudi et il débattait de l'allongement du délai légal pour une interruption volontaire de grossesse, allongement qui a été voté en première lecture à l'Assemblée. Ce qui est un peu compliqué, c'est que cette proposition de loi a été soutenue par plusieurs élus de la majorité, mais le gouvernement veut un avis du Comité Consultatif National d'Éthique avant son passage au Sénat. Moment malgré tout très symbolique, très important, ce débat sur l'interruption volontaire de grossesse, Natacha.
C'est un moment important et qui mérite un débat qui soit un débat dans lequel les citoyens sont impliqués. Et je crains que nous ne passions un peu vite là-dessus. Pourquoi ? Parce que là aussi, il faut rentrer dans les détails du problème. Quel est le réel problème ? C'est que des femmes ne peuvent pas avorter en France, que c'est beaucoup trop compliqué, qu'on leur explique qu'il n'y a plus de centre, qu'il n'y a pas de rendez-vous, qu'il est trop tard. Et c'est absolument insupportable. Donc ce droit doit être préservé. Est-ce que la solution adoptée, à savoir rallonger le délai, est la bonne solution? Je m'interroge quand je lis, par exemple, le professeur Nizan qui alerte sur le fait que ce serait une mauvaise réponse à une bonne question. Et Israël Nizan n'est pas particulièrement un réactionnaire ou quelqu'un qui émettrait des doutes sur le droit des femmes à l'IVG. Donc la question, c'est est-ce que on va pallier le manque de centre, le nombre de fermetures croissantes, le manque de moyens, en fait, par un allongement du délai, ou est-ce que ça risque d'amplifier les réticences de certains gynécologues qui ne veulent pas pratiquer cet acte? Je pense qu'il faudrait avant tout une politique gouvernementale suffisante pour permettre aux femmes d'avoir droit à un IVG dans des conditions correctes et dans un délai correct, plutôt que d'allonger ce délai.
Allongement de 12 à 14 semaines de ce délai légal donc, qui a été voté en première lecture. Et juste pour fixer les idées, puisque chaque année, entre 3 et 4 000 femmes hors délai, comme on dit, partirait avorter à l'étranger, selon un rapport parlementaire publié il y a maintenant près de 20 ans. Donc une question ancienne, Gilles.
Oui. En fait, il y a deux dimensions. Une qui a été dans la proposition de loi qui vient d'être adoptée en première lecture. La première que vient d'évoquer Natacha Polony et qui a été peu reprise, c'est comment on fait pour rendre le droit à l'avortement plus effectif. Ça a été une action continue sous la présidence de François Hollande dans le quinquennat précédent. Il y a eu de nombreuses actions à la fois de Marisol Touraine sur la gratuité totale de l'IVG, quelle que soit la méthode. En 2014 avec Najat Vallaud-Belkacem, puis en 2017 avec Laurence Rossignol pour faire que le délit d'entrave soit étendu, y compris sur des questions numériques. En 2016, à nouveau, avec Marisol Touraine pour étendre les possibilités de pratique de l'IVG au centre de santé. Cette proposition de loi va un cran plus loin, à la fois dans une dimension symbolique, c'est la suppression de ce que l'on appelle la double clause de conscience, et de manière extrêmement pratique, en permettant aux sages-femmes, par exemple, de pratiquer l'IVG jusqu'à 10 semaines, ou en créant, ce qui est très important, un répertoire par les ARS, des centres dans lesquels il est possible de pratiquer l'IVG. Donc ça, c'est une dimension, et Natacha a raison, c'est sans doute l'élément le plus important. Et puis, il y a une deuxième dimension dont je ne crois pas qu'elle soit une alternative, je pense qu'elle se complète avec l'autre, qui est de rendre ce droit plus souple. C'est l'extension, on a déjà fait de 10 à 12 semaines, là c'est avec Martine Aubry, là c'est de 12 à 14 semaines, tout simplement parce que la France est plutôt en retard par rapport à ses voisins espagnols et allemands, qu'il y a quelques centaines, on ne sait pas exactement, peut-être quelques milliers de femmes qui se trouvent hors délai pour les raisons que vous évoquez, Natacha, c'est-à-dire le fait que c'est de plus en plus difficile, mais pas seulement pour ça, parce qu'il y a aussi d'autres situations dans lesquelles il y a, par exemple, des dénis de grossesse, et que donc, c'est sans doute une moins mauvaise solution d'étendre ce délai plutôt que ces femmes aillent se faire avorter à l'étranger.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Dernier sujet, avant de retrouver notre invitée Sylvie Laurent, l'historienne spécialiste des États-Unis. Gilles, on commence à connaître votre passion pour les sondages, elle est réelle. Et il y en a un en particulier sur lequel vous vouliez revenir. Sondage qui n'est pas si récent que ça, il a été publié dimanche dernier dans le journal du dimanche. Et c'est un sondage sur la présidentielle, il a retenu votre attention. Il y avait tellement de scénarios différents qu'on s'y perdait un peu. Mais pour résumer les choses, on peut dire en gros que la gauche a très peu de chances, à en croire ce sondage, d'accéder ne serait-ce qu'au second tour.
Alors c'est une des conclusions. Non, je pense que c'est intéressant d'y revenir, d'abord parce qu'il y avait beaucoup d'hypothèses, mais parce que dans les 18 mois qui viennent, nous allons être inondés de sondages sur les intents de vote à l'élection présidentielle, et que ces sondages vont peser sur l'élection elle-même. À ce stade, il y aurait une attitude sage qui serait de ne pas le regarder.
Oui.
Parce qu'il n'y a pas d'élection, c'est dans 18 mois, parce qu'il n'y a pas de candidat, c'est très différent d'avoir un candidat potentiel et un candidat réel, et d'une certaine manière parce qu'il n'y a pas d'électeur. Les Français aujourd'hui pensent à beaucoup de choses, mais pas vraiment à l'élection présidentielle, et ça n'a pas été relevé dans ce sondage. Vous avez 30% des Français qui n'expriment pas d'intention de vote.
Mais alors pourquoi en parler ?
J'ajoute un dernier élément, c'est que le seul point commun à toutes les enquêtes qui ont été faites à 18 mois de l'élection présidentielle depuis 30 ans, le seul point commun, c'est que jamais ils n'ont donné les bons finalistes.
Jamais.
Bon, donc, tout ça permet de relativiser. Maintenant, si on le regarde quand même, je pense qu'il faut quand même le regarder. On voit que Emmanuel Macron et Marine Le Pen, vous ne l'avez pas évoqué, dans les 11 scénarios, sont à chaque fois au second tour. Ils sont bien installés, et ils sont bien installés pour une raison, c'est qu'ils réussissent à mobiliser leur électorat. Les sympathisants de La République En Marche, les sympathisants du Rassemblement National, à 90% votent pour le candidat de leur camp. Ce n'est pas le cas pour les autres. Le deuxième enseignement, ça a été peu relevé, c'est que Xavier Bertrand émerge. Il est dans le jeu et il crée une distance avec les autres candidats potentiels. La question est maintenant pour lui de savoir ou conquérir des marges supplémentaires? Est-ce que c'est sur les électeurs d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen? Et enfin, vous avez commencé par là, parce que vous...
Il émerge, mais en l'occurrence, il n'y a aucun scénario où il pourrait être élu pour le moment.
Non, alors, évidemment, mais quand on est à 16% en base de départ, alors même qu'il n'est pas candidat, à 18 mois d'une élection, vous êtes dans le match. Il est sur le terrain. La gauche n'est pas sur le terrain, elle est encore à l'échauffement. Et je trouve le point le plus compliqué pour la gauche quand on regarde...
C'est le point de vue optimiste du directeur de la Fondation Jean Jaurès.
Alors, j'essaye d'être lucide parce que je trouve la difficulté de ce sondage, c'est que la gauche se trouve dans une impasse divisée. La division est fatale, parce que c'est dispersion et marginalisation. Quel que soit le candidat, il y en a beaucoup qui sont testés. Et le problème, c'est que lorsqu'elle est rassemblée, l'addition ne marche pas. 1 plus 1 plus 1, ça ne fait à peine 2. Et donc, je crois que ce sondage-là est un signal d'alerte extrêmement puissant pour la gauche d'essayer de prendre la mesure de la situation et d'en tirer les conséquences. Une élection présidentielle, ça se prépare et il n'est que temps, on va dire.
Natacha.
C'est admirable. Bravo, Gilles.
Merci, Natacha.
Bravo, vous m'avez presque donné envie de lire des sondages. Non, disons que je pense que le problème d'un tel sondage est qu'il donne l'impression que, en effet, il y aurait une fatalité à rejouer le match de 2017. Et je pense que ça ne peut que exaspérer la plupart des citoyens français qui justement ne veulent pas de ce match. Et ça donne l'idée à tort qu'on voudrait, et là c'est une faute d'interprétation de la part des gens, mais beaucoup la font, qu'on voudrait leur imposer ce match. Et c'est pour ça que ce genre de sondage, même si on peut en tirer les enseignements que vient d'en tirer Gilles, et ils
mais
sont tout à fait
justes...
Mais
comment est-ce qu'on peut imposer un match à des électeurs qui sont libres de leur choix et qui votent en conscience dans un isoloir?
Il y a quand même un rapport entre le discours médiatique et la façon dont se joue une élection. Et moi, je pense toujours à l'élection de 2002, avec ce sondage du Parisien au mois de février, 74% des Français ne veulent pas d'un second tour Chirac-Jospin. Et juste en dessous de la page, il y avait un sondage exactement comme celui que nous commentons, qui se terminait par évidemment Jacques Chirac et Lionel Jospin sont au second tour et on doit savoir lequel est devant l'autre, etc. Donc ces sondages sont intéressants, comme vient de le faire Gilles, dans l'immédiat pour essayer de comprendre les dynamiques. Le problème est qu'ils sont trop souvent interprétés, même par des journalistes, comme quelque chose de prédictif qui tendrait à interdire justement des dynamiques véritables et des surgissements et tout ce qui permettrait à la démocratie de s'exprimer.
Et il y en a un qui a toujours fait mentir les sondages, toujours, peut-être pas, mais en tout cas au moins une fois, et qui doit rêver de les faire mentir de nouveau, c'est Donald Trump. À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec l'historienne Sylvie Laurent.